Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile.
Aurélien Devernoy.
Les pays européens continuent d'annoncer de nouvelles mesures de restriction pour faire face à la deuxième vague de Covid-19, mais elles ne font pas toujours l'unanimité. Des manifestations ont ainsi eu lieu en Italie. Nous rejoindrons également nos envoyés spéciaux dans le Haut-Karabakh, où les combats entre forces arméniennes et azerbaïdjanaises continuent de faire rage. Des civils commencent à prendre les armes pour défendre la ville de Stepanakert. La diplomatie américaine à la manœuvre pour contrarier les ambitions chinoises. Washington a signé un accord de défense avec l'Inde en conflit territorial avec Pékin, accord portant sur l'échange de données militaires. Et puis la campagne de boycott contre les produits français se poursuit dans plusieurs pays musulmans. La position d'Emmanuel Macron sur la question des caricatures du prophète Mohammed suscite toujours de nombreuses réactions, notamment en Tchétchénie, vous l'entendrez.
Le journal.
Le journal en français facile.
En français facile.
Mais tout d'abord, en France, Emmanuel Macron s'exprimera demain à 20h, heure de Paris, pour évoquer la situation sanitaire dans le pays. Le président français devrait annoncer de nouvelles mesures de restriction. Celles-ci seront ensuite discutées au Parlement jeudi, a précisé de son côté le Premier ministre Jean Castex. Un premier conseil de défense s'est tenu ce mardi au Palais de l'Élysée, la résidence du chef de l'État. Plusieurs options ont été discutées, notamment celle d'un reconfinement national. Il s'agirait du scénario privilégié par les autorités, préféré par les autorités, selon des informations publiées par plusieurs médias français ce soir. La situation sanitaire s'est fortement dégradée dans le pays. Plus de 33 000 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures et 523 morts déplorées selon l'agence Santé publique France. La France pourrait donc à nouveau se calfeutrer, se mettre à l'abri contre le coronavirus. La deuxième vague qui provoque une multitude de nombreuses décisions sanitaires en Europe, en Italie par exemple. Les bars et restaurants ne peuvent plus servir à partir de 18h. Une décision qui ne passe pas dans le pays. Après Naples, des manifestations ont eu lieu la nuit dernière dans plusieurs grandes villes, dont Milan et Turin. La correspondance à Rome, Dan Lenir.
Déçu par le gouvernement qui semble naviguer à vue dans sa lutte contre la propagation du coronavirus, par milliers, les Italiens descendent dans les rues et expriment leur sentiment d'exaspération, scandant ces slogans « Laissez-nous travailler, liberté ». Liberté. Et parfois, ils passent à la violence, comme à Turin, où des boutiques de luxe ont été saccagées, et à Milan, où des tramways ont été vandalisés. Il faut toutefois préciser que ce sont des jeunes et moins jeunes, d'extrême droite, ou des activistes provenant des centres sociaux autogérés, qui sont à l'origine des violences, et non pas tous les manifestants, dispersés par la police anti-émeute, à coups de gaz lacrymogène. Mais le gouvernement n'en redoute pas moins une bombe sociale. C'est pourquoi des aides financières plus consistantes pour les secteurs en difficulté seront versées au plus tard le 15 novembre, selon les promesses du ministre de l'économie Roberto Gualtieri. Anne Lenir, Rome, RFI.
Et à noter que le président algérien Abdelmajid Tebboune a été hospitalisé ce mardi. Il présente des symptômes du Covid-19, mais son état de santé n'inspire aucune inquiétude selon la présidence. Le chef de l'État algérien est âgé de 74 ans. En Argentine, la légende du football Diego Maradona a été placé à l'isolement. Le double champion du monde, qui entraîne aujourd'hui le club de Gimnasia La Plata, a été en contact avec une personne malade. Quarantaine également pour le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Au lendemain de l'échec d'une nouvelle tentative de cesser le feu, l'Azerbaïdjan accuse l'Arménie d'avoir tué au moins 4 civils après un tir de missile dans la région de Barda. L'Arménie dément de son côté toute attaque. Dans le Haut-Karabakh, région disputée par les deux pays, les affrontements, eux, se poursuivent. Nos envoyés spéciaux Anastasia Becchio et Richard Rifono se trouvent à Stepanakert, la principale ville de la zone, où la plupart des habitants ont fui. Mais quelques-uns refusent d'abandonner leur maison. Reportage aux côtés d'un vétéran de la première guerre du Haut-Karabakh dans les années 90, qui participe à sa manière à la défense de la ville.
Qu'il soit au volant de son 4x4 ou à pied dans les rues de Stepanakert, Artour Aroustanian ne se déplace jamais sans son fusil automatique. Une habitude que cet ancien policier de 60 ans, à la retraite, a prise ces dernières semaines.
Vous avez sans doute entendu parler de ces saboteurs. Il y en a beaucoup, un peu partout, surtout dans le sud. Mais rien ne dit que demain, ils ne viendront pas ici. C'est pourquoi, toutes les nuits, on organise des rondes autour de la ville.
Lorsque cette guerre a débuté fin septembre, Artour a conduit son épouse, ses filles, belles-filles et petits-enfants à Erevan, avant de revenir à Stepanakert, au plus près de son fils qui est sur le front. Son beau-fils a lui été blessé dans les combats. Lui qui a fait la guerre dans les années 90 et qui y a perdu son jeune frère, assiste presque impuissant à une nouvelle hécatombe.
Il y a énormément de morts. Personne n'en connaît le nombre exact, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très nombreux. Tous les corps n'ont pas été encore retrouvés. On ne sait pas si ces personnes sont mortes ou disparues ou sont retenues en otage. Il n'y a pas beaucoup d'informations, mais le nombre de victimes est élevé.
Artour suit avec inquiétude les nouvelles du front, en particulier dans le sud, près du corridor stratégique de la Chine. Si la Chine était menacée, soupire-t-il, ce serait terminé pour nous, avant d'ajouter « mais nous nous battrons jusqu'au bout ». Anastasia Becchio, Richard Rifono, Stepanakert, RFI.
Et la médiation tentée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan par les États-Unis le week-end dernier n'aura donc pas abouti. Washington, qui poursuit par ailleurs ses efforts diplomatiques en Asie, le secrétaire d'État et le ministre américain de la Défense étaient en visite officielle en Inde ce mardi. Ils en ont profité pour signer avec le gouvernement indien un accord important d'échange de données militaires. Explication de notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcy.
Le Basic Exchange and Cooperation Agreement, ou BEC, va permettre un échange direct d'informations satellites et topographiques entre les armées indiennes et américaines. La plupart de ces données ne seront pas classées défense, mais une clause autorise également cette option. Cela offrira d'abord à l'Inde des cartes plus précises de la sous-région, et particulièrement du Pakistan et de la Chine, deux pays hostiles à l'Inde. Mais cela permettra surtout à l'armée indienne de synchroniser ses instruments avec les satellites américains et son système GPS afin d'offrir une plus grande précision à ses missiles et à ses drones. C'est le quatrième accord en 18 ans entre les deux pays concernant les échanges d'informations militaires, et cela renforce encore plus leur alliance dite de l'Indo-Pacifique, dont le but est de contrer l'influence de la Chine dans la région. Pékin a d'ailleurs reçu le message et a exhorté les États-Unis, je cite, à cesser de semer la discorde entre la Chine et les pays de la région. Une discorde qui est pourtant déjà bien établie. Les armées indiennes et chinoises se sont affrontées dans les montagnes du Ladakh en juin dernier, causant la mort de 20 soldats indiens et d'un nombre indéterminé de Chinois. Sébastien Farcy, New Delhi, RFI.
Les États-Unis, dont un ressortissant a été enlevé ce mardi au Niger, des hommes armés sont venus le chercher dans son domicile, situé non loin de la frontière avec le Nigeria. Par ailleurs, 300 migrants ont été secourus ces deux derniers jours au large de la Mauritanie. Ils cherchaient à atteindre l'archipel espagnol des Canaries. Deux personnes au moins auraient péri. Quatre exilés, dont deux enfants, se sont également noyés après être tombés d'une embarcation qui tentait de rejoindre la Grande-Bretagne depuis les côtes françaises. La France toujours vilipendée, critiquée dans le monde musulman. En cause, les déclarations d'Emmanuel Macron défendant le droit à caricaturer le prophète Mohammed. Les réactions se multiplient, parfois d'une très grande violence. C'est le cas en Tchétchénie, où les autorités locales, dont le dirigeant Ramzan Kadyrov, accusent le président français de pousser les musulmans au terrorisme. Correspondance à Moscou de Daniel Valo.
Dans un premier message publié après la mort de Samuel Paty, Ramzan Kadyrov avait présenté ses condoléances. Mais il avait estimé que la France avait une part de responsabilité dans la mort du professeur d'histoire. Ce mardi, dans un long texte publié sur les réseaux sociaux, le dirigeant tchétchène va beaucoup plus loin en comparant Emmanuel Macron à un terroriste qui appelle les musulmans à commettre des crimes. En soutenant la publication des caricatures de Mahomet, le président français est devenu, aux yeux de Ramzan Kadyrov, le chef de file du terrorisme en France. Stopper les provocations et les attaques contre la foi islamique, conclut le dirigeant tchétchène, avant qu'il ne soit trop tard. Fin de citation. Le texte de Ramzan Kadyrov fait écho à celui publié quelques heures auparavant par le moufti de Tchétchénie qui faisait d'Emmanuel Macron le terroriste numéro un et qui accusait à tort le président français d'avoir ordonné l'accrochage des caricatures sur tous les édifices publics de France. En janvier 2015, après la tuerie de Charlie Hebdo, les autorités tchétchènes avaient mobilisé dans la rue des centaines de milliers de personnes. Non pas pour protester contre la mort des journalistes français, mais pour dénoncer les insultes faites à l'islam. Daniel Valot, Moscou, RFI.
Et c'est la fin de votre journal en français facile. Merci de votre fidélité à RFI.